Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
La destruction des forêts constitue une vraie menace pour l'écosystème. En effet, la population rurale se livre à l'abattage des arbres dans les différentes forêts à travers le pays, ce qui leur permet d'utiliser les bois pour fabriquer de la braise ou pour d'autres utilisations. Et dans bien des cas, ces forêts ne sont pas reboisées. Comment aider la population à avoir des forêts utiles ou artificielles et ainsi permettre de protéger les forêts naturelles. Cela permet également de protéger les forêts naturelles. Comment arriver à faire cela? Jean des Dieux Minengou, il est expert en environnement et développement. Rebonjour.
Bonjour, Jody.
Qu'est-ce qu'on entend par forêt utile?
Merci, Jody. Je crois qu'avant de répondre à votre question, je voudrais dire que la problématique que vous êtes en train d'évoquer ici, de la création de forêts utiles pour les communautés rurales, je crois que c'est une question importante parce qu'elle entre dans la problématique générale du changement climatique et que vous voyez à travers le monde, également en République démocratique du Congo, il y a de nombreux projets de reboisement, de nombreux projets de boisement, de nombreux projets des réforestations qui sont en train de faire. Mais la question importante qu'il faut se poser est celle de savoir quel type de forêt faut-il créer pour les communautés. Est-ce que faut-il mettre la forêt pour la simple raison de la mettre ou faut-il créer une forêt qui doit rendre service à la communauté? Parce que le problème, c'est quoi? Surtout quand vous voyez dans notre pays, oui, il y a beaucoup de projets de reboisement ou de boisement et en République démocratique du Congo. Mais quand vous allez très loin dans l'analyse scientifique de tous ces projets ou de toutes ces initiatives, vous allez constater que ce sont des forêts, en réalité, la plupart, qui ne sont pas utiles pour les communautés locales. Comme vous avez posé la question, c'est quoi d'abord une forêt utile? À notre avis, une forêt utile, c'est une forêt qui devrait répondre à un certain nombre de fonctions pour le bien des communautés, pour le bien des populations.
Lesquelles?
La première fonction, à notre avis, c'est la fonction alimentaire. Il faut que la forêt soit capable de disposer des ressources qui doivent servir à l'alimentation de la communauté. Il faut que la forêt soit capable d'assurer la sécurité alimentaire des populations.
Oui, c'est-à-dire, généralement, les autochtones font l'agriculture.
Bien sûr,
c'est dans la forêt.
Pas seulement l'agriculture, mais une forêt où on n'a pas encore fait
la chasse aussi.
La chasse, les gens peuvent aller faire la chasse aujourd'hui, comme vous venez de dire. Oui. Dans la forêt, les gens peuvent aller chercher des chenilles. Dans la forêt, les gens peuvent aller chercher des champignons. Bien sûr, d'autres produits forestiers non lignés.
Les fruits aussi.
Les fruits, pour manger. Ça, c'est très important pour une forêt. Oui. Mais lorsque on crée une forêt et que cette fonction n'est pas attribuée à votre forêt, ce n'est pas une forêt utile. On va expliquer d'autres. Deuxième fonction pour la forêt,
oui,
c'est que je dis, comme vous le savez, dans notre pays, au moins 90% de la population recourt à la forêt pour régler leurs problèmes d'énergie.
Donc il y a une forte pression
de
la population
sur la forêt. Ils doivent aller à la forêt pour chercher du bois de chauffe, pour pouvoir préparer de la nourriture. Oui. Donc malgré le potentiel que nous avions en termes d'hydroélectricité et autres, mais notre source d'énergie beaucoup plus disponible pour la majeure partie de notre population, c'est le bois.
Le makala.
C'est le makala. Mmh. Donc les gens sont obligés d'aller dans les forêts pour aller chercher. Donc il faut que les forêts que nous sommes en train de créer dans le cadre de reboisement puissent répondre également à cette fonction. Troisième fonction de la forêt, je dis, il faut que la forêt aussi puisse être un lieu où les gens peuvent aller chercher des produits pour se faire soigner. Vous savez que dans beaucoup de milieux dans notre pays, il n'y a même pas de dispensaire, il n'y a même pas un centre. Alors, les gens recourent à ce que les gens ont appelé, je ne sais pas, de façon abusive, la médecine traditionnelle, que moi j'appelle la médecine africaine, pour aller
nos
chercher... Nos plantes médicinales. Pour aller chercher des produits, et ça résout des problèmes, dans la plupart des cas. Donc, il faut que les forêts qu'on est en train de créer répondent également à cet objectif. Eh bien, il y a tant d'autres... Il faut que la forêt, dans les termes de recherches scientifiques, puisse présenter un intérêt. Et aussi, sur le plan de l'environnement, il faut que les forêts qu'on est en train de faire puissent jouer un rôle important sur le climat à partir de la séquestration du CO2. Donc voilà les fonctions qu'une forêt utile peut jouer pour l'intérêt des communautés locales.
Alors, quelle est la situation des forêts aujourd'hui dans notre pays ?
Bon, en fait, à ce qui concerne la situation des forêts, tout ce qu'on peut appeler dans le cadre du reboisement, moi je peux dire qu'il y a la plupart, quand vous voyez la plupart des projets réalisés en République démocratique du Congo, ce sont des forêts monospécifiques. C'est-à-dire, on fait le reboisement, l'unique plante dans ces pays où les gens connaissent pour faire le reboisement, c'est l'acacia. Vous allez voir des hectares et des hectares de terre où on a planté que de l'acacia. Est-ce que cette forêt peut être une forêt utile ? À mon avis, non. Parce que cette forêt n'a qu'un seul objectif, la production de l'énergie. Dans l'acacia, on ne peut rien tirer de la nourriture. Rien du tout. Dans l'acacia, il n'y a pas, c'est pas une plante qui doit être utilisée dans le cas de traitement des maladies, etc. Donc, de telles forêts, ce ne sont pas en réalité des forêts utiles. Mais la difficulté, c'est quoi aujourd'hui par rapport à tout cela ? Donc, le problème dans ces pays, c'est que...
Bon, peut-être que c'est utile, pas en totalité, mais en partie.
Mais en partie,
parce
mais...
Parce que ça résout un problème, déjà.
Mais on pouvait résoudre beaucoup de problèmes en créant déjà cette forêt. Mais lorsqu'on se lance déjà dans la création d'une forêt avec une seule espèce, ça pose problème. Donc, on ne peut pas arriver à régler le problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème en République démocratique du Congo, c'est qu'au niveau même de la société civile et autres, nous avions toujours l'habitude de copier les choses. Nous n'avions jamais eu le temps de réfléchir sur ce que nous pouvons faire nous-mêmes en tant qu'individus, en tant que citoyens, en tant que communauté. Nous copions les choses comme les autres font les reboisements avec la cassée et nous, on fait la cassée. Or, on oublie que nous avons une grande biodiversité dans ce pays. Et qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent être intégrées dans le processus de reboisement dans notre pays. Ça, je vous l'ai dit déjà, à l'université de Kikwit, il y a un très grand projet de recherche qui est en train de faire. J'ai longuement discuté avec le secrétaire général académique de cette université, le professeur Alphonse, où on est en train de faire des essais de domestication, des essences qui peuvent être intégrées dans l'agroforesterie et le reboisement dans notre pays. Et ça, c'est un projet très intéressant. Et quand vous arrivez devant l'inspection provinciale de l'agriculture de la ville de Kikwit, où ces gens-là, malgré les conditions dans lesquelles ils vivent avec des salaires qui ne sont pas tout à fait acceptables, mais ils font des choses extrêmement importantes. Vous allez voir qu'ils ont déjà tenté les essais de domestication de plantes comme Onkoba Welweti. Ça, je pense que vous allez vous rappeler de cette essence. On l'appelle souvent
Onkoba.
Les gens, souvent ici à Kinshasa, on l'appelle Nzete ya Mbuma. Ça donne un fruit, on appelle ça Mbuma Yalikaku. Donc c'est un fruit qui a plusieurs épines, oui. Et lorsqu'il est à l'état mûr, il est jaune. Et ça, c'est une plante tout à fait intéressante.
On peut arriver à domestiquer cette essence.
Bien sûr, déjà, quand vous arrivez devant l'inspection, il y a des choses qui sont en train d'être réalisées. Donc on peut arriver.
On y revient tout à l'heure, on va accorder la parole à Confiance Kabongo qui est à Kinshasa. Vous voulez également participer, composez le 081-890-63-94.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Confiance Kabongo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody Kachama, bonjour Jean de Dieu Miningo, et bonjour à tous les okapistes de la radio de la paix.
Alors Confiance, veuillez oui, vous éloigner bon. De la radio hein, pour éviter le retour à l'antenne. Et voilà, veuillez réduire sensiblement le volume de votre poste récepteur.
Allô?
Oui, on vous écoute, allez-y.
Oui, je voulais poser un peu une question à l'invité, parce que dans la plupart des cas, je ne sais pas, à l'entendre parler... il y a aussi le besoin énergétique qui fait qu'on détruise la forêt. Je ne sais pas à quelle échelle, mais il y a aussi l'exportation du bois qui contribue aussi. Or, dans le cadre de la biodiversité que nous avons ici, il se fait qu'en abattant un seul arbre, on peut aussi tuer plusieurs espèces des plantes dont il a parlé qui pouvaient être médicinales et puis remplir tous les autres besoins. Est-ce que carrément on ne peut pas voir l'apport économique de l'exportation du bois, s'il ne peut pas couvrir nos besoins, est-ce qu'il ne serait pas possible d'arrêter carrément cet abattage et permettre à ce que nous gardions cette espèce? Il y a des espèces qui ne se renouvellent pas en peu de temps. Est-ce que dans les arbres dont il parle, là, dans les plantes dont il parle, pour la redomestication, comme
oui,
il a dit,
oui.
Est-ce qu'il y a des arbres qui ont plus de 60 ans, mais qu'on abat pour l'exportation, et qu'on ne peut pas renouveler en peu de temps? Est-ce qu'il n'y a pas carrément moyen qu'on arrête et qu'on fasse autre chose? C'est-à-dire qu'on renouvelle les choses qui peuvent être récupérées.
Oui, merci Confiance. Jadot Kassova est à Loubero, au Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit cachement, bonjour l'invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui. C'est juste demander si cette sensibilisation est possible à langue locale, parce que la plupart des cas, c'est que nous constatons ici chez nous à l'Est, ceux qui s'occupent de la destruction des plantes de découpe de bois pour les chauffes, pour d'autres usages domestiques, sont des populations locales qui n'ont pas eu le temps d'être à l'école. Alors, lorsqu'on fait des sensibilisations, nous avons comme l'impression qu'on a fait toujours une couche de lettrés, des gens qui restent presque dans les villes ou dans les bureaux et qui n'ont pas le temps peut-être de pouvoir échanger avec les populations locales. Parce que les cas que nous vivons ici chez nous, à Loubero, dans la forêt de la réserve de Chazirimou, cette forêt a été abattue par les paysans dans la recherche des terres arables, parce que les terres qu'ils utilisent ne parviennent plus à une productivité qui puisse leur assurer une alimentation saine. Alors, est-ce que à cette occasion-là, est-ce qu'on songe à le faire dans des langues locales ou pour atteindre ces populations-là? Voilà ma question, j'ai dit qu'à Jean.
Merci Jadot, Jean de Dieu Minengo.
Merci. Donc, on commence directement avec la question de Jadot et puis on va terminer par Confiance. Il pose une problématique très intéressante de la sensibilisation en langue locale. Vous savez, je dis, en matière d'environnement, le pouvoir public congolais commet énormément de fautes parce qu'on pense qu'en arrêtant, en prenant des mesures dans un bureau climatisé ici, et les choses peuvent très bien se dérouler sur le terrain. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi vous voyez dans beaucoup de cas ici, par exemple en matière de gestion des déchets dans la ville, voilà, il n'y aura plus de sachets. Le lendemain, on retrouve les sachets sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une sensibilisation. Pour que la décision puisse être respectée sur le terrain, il faut une forte sensibilisation, il faut un consensus autour de cela. Donc, la première méthode, soit pour réduire la dégradation des forêts, soit pour arrêter la déforestation, c'est d'abord la sensibilisation des communautés locales. Ça, c'est très important. Comment faire la sensibilisation? Bien sûr, je crois que notre ami Jadot est arrivé pratiquement à ce qu'on est en train de faire. Il y a un travail important qui s'est fait à l'INIKI. Nous, on est en train de mettre sur pied un guide de sensibilisation. Là, c'est dans le cas du changement climatique. On parlait également parce que la déforestation et autres ou la création des forêts
oui.
font partie de tout cela. On est en train de mettre un guide.
Les guides de sensibilisation des communautés.
Des communautés sur les changements climatiques. On parlait également des problématiques des forêts. Et là, je crois qu'on va arriver. On n'y avait pas pensé, mais je crois qu'il soulève un problème très important.
Oui.
On va essayer de traduire ce guide en quatre langues nationales et pour ouais. qu'il soit accessible pour l'ensemble des communautés. Parce qu'il ne faut pas consacrer seulement aux lettrés, mais les vrais acteurs de l'environnement, ce sont des gens qui sont au village et qui travaillent au niveau de la forêt. Ouais. Alors, Confiance dit qu'il faut, par rapport à la forêt, il faut arrêter l'abattage et bien d'autres truc, ça dépend, c'est très difficile de dire voici ce qu'il faut faire, mais ça dépend des contextes dans lesquels on se retrouve. Il appartient au pouvoir public, à travers les mécanismes RED, peut-être d'évaluer les avantages de pouvoir aller beaucoup plus vers l'abattage ou vers la coupe des arbres pour autres et d'évaluer les avantages ou les désavantages de tel type d'opération. Donc voilà ce que...
Mais parce qu'aujourd'hui on parle de la déforestation, est-ce qu'il faut-il continuer à abattre les arbres?
Non, je dis, c'est pourquoi vous avez... Votre émission, c'est pourquoi vous avez refait une émission sur la création de forêts utiles. Aujourd'hui, beaucoup...
Donc pour compenser, il faut créer d'autres forêts
utiles.
Pour compenser,
parce qu'il y a des forêts qui ont été abattues.
Oui.
Mais maintenant, nous, le problème se trouve... Lorsqu'on refait maintenant les reboisements, mais c'est avec quel type de forêt qu'on voudrait remettre? Dans la plupart des cas, on ne remet pas des forêts utiles. Quand vous arrivez au niveau du projet IBI, ça c'est une forêt monospécifique. C'est une forêt où il n'y a que les acacias. Quel est l'intérêt pour la communauté locale par rapport à ces projets? En dehors de l'intérêt sur le plan de l'équilibre du climat. Est-ce que les gens peuvent aller dans cette forêt pour récolter les chenilles? Est-ce que les gens peuvent aller dans cette forêt pour trouver des fruits pour en manger? C'est tout ça la fonction que devrait jouer
cette forêt-là. Cette forêt, une forêt utile, si on comprend bien, elle doit jouer plusieurs fonctions.
Donc, exactement.
Alimentaire, vous avez dit, elle doit...
Énergétique,
fournir des médicaments et la séquestration également du CO2.
Exactement. Ouais.
Kovo Chimbu, vous êtes à Kikwit dans le Bandundu. Bonjour. Kovo Chimbu, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui. Ma question est la suivante. J'aimerais poser la question à l'invité de savoir si une forêt n'a pas de la fertilité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la fertilité dans une forêt?
Merci, Jean de Dieu.
Merci. Kovo, si... Comment faire en sorte que les forêts deviennent tout à fait fertiles? Là, vous voulez entrer dans le domaine de l'agriculture et de la foresterie. Donc là, on est dans les domaines de l'agroforesterie. Donc là, à mon avis, il y a des espèces végétales qui permettent de fertiliser les sols. Ce sont souvent des légumineuses. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que quand on va dans les projets de reboisement aujourd'hui, les gens ne pensent même pas à des plantes comme les lécénans. Les gens ne pensent même pas à d'autres espèces. Mais on se focalise seulement sur l'acacia, pensant comme si l'acacia était la solution pour le reboisement dans notre pays.
Donc, mais Jean de Dieu, il n'y a pas toujours l'acacia. Vous avez l'acacia, il y a des activités agricoles, il y a d'autres activités qui vont ensemble. Ils organisent plusieurs activités ensemble.
Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de problème. En fait, pour moi, l'idée que cette forêt, les forêts utiles,
dans la définition,
dans la définition utile, cette forêt où il y a qu'une seule espèce comme l'acacia, c'est pas une forêt utile, parce qu'elle ne sert à rien. Elle ne sert qu'à une seule activité pour des raisons énergétiques et autres.
Il faut qu'il y ait plusieurs essences.
Il faut qu'il y ait plusieurs essences qui ont un intérêt local. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de tous les projets de loi, si vous créez une forêt qui présente en elle-même de l'intérêt pour la communauté, et cette communauté est appelée à protéger cette forêt. Parce qu'ils savent que c'est à travers cette forêt qu'ils peuvent aller trouver des chenilles. C'est à travers cette forêt qu'ils peuvent aller trouver des médicaments. Donc, ils ont l'obligation morale de la protéger. En dehors d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte, la lutte contre la pauvreté et autres. Mais lorsque vous faites une forêt comme ça, qui est une seule espèce, où les gens savent que c'est seulement pour le bois, ils sont obligés de couper cette forêt pour faire de la braise, parce qu'elle ne représente aucun intérêt en dehors de la braise.
Mais est-ce qu'il existe déjà une forêt utile modèle dans notre pays?
Il faut en faire, je crois que dans le cadre du projet qu'on est en train de réaliser avec le programme des Nations Unies pour le développement. Donc ça, il faut le dire également à travers la Radio Capi. C'est grâce à la Radio Capi que nous avions reçu le financement du programme des Nations Unies pour le développement, parce que le coordonnateur du programme de petites subventions, M. Célestin Kabeyak, qui suit à plusieurs reprises la Radio Capi, nous a suivi à travers de vos antennes, et c'est comme ça qu'il a dit qu'on peut faire un projet de création de forêts utiles dans la périphérie de Kinshasa. Et je crois que jeudi, si vous avez l'état, vous irez voir ce qu'on attend réellement sur le terrain par une forêt.
Par une forêt ici.
Oui.
Ben on aura peut-être plus tard l'occasion d'en parler et peut-être de visiter cette forêt.
Bien sûr, je l'ai.
Des questions, des préoccupations, composez le 081-890-63-94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Comment créer des forêts utiles pour les populations locales? John Lupika, vous êtes à Kindu, au Maniema, bonjour. John Lupika, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les amis, bonjour à monsieur l'invité.
Bonjour John, c'est jeudi au micro, on vous écoute.
Ah, c'est jeudi, bonjour.
Bonjour, voilà. John, oui.
Disons qu'à propos de la création ou bien de la régénération des forêts, on ne peut pas recourir à une seule approche partout et en tout point sur le globe terrestre.
Oui.
C'est-à-dire quoi là? Il y a des endroits où on ne peut pas appliquer la formule dont on a appliqué ailleurs avec succès. Pour les forêts utiles, par exemple, j'ai observé une situation à Tunda dans les territoires de Kibombo, en chefferie des Ankoutou. Il y a un endroit entre l'hôpital et l'internat des filles. Longtemps, il y avait seulement la savane. Mais regardez, aujourd'hui, quand vous arrivez à cet endroit, vous trouvez que cet endroit est déjà colonisé par une forêt. Donc, l'approche qu'il y a là-bas, c'est tout simplement interdire la pratique de feu de brousse. Et vous verrez que la forêt elle-même est en train de repousser la savane. Au lieu de planter rien que les acacias, bon, hein, voilà. Et puis à Tunda aussi, entre le territoire de entre la chefferie des Ankoutchou et la chefferie de Matapa. Vous allez trouver des caféiers qui ont déjà atteint la taille des manguiers. Cela signifie que il a existé des caféiers à l'état sylvestre à cet endroit-là. Mais on n'en parle pas dans la phytotechnie. Il y a donc, en résumé, c'est que il y a les approches qu'il faut à recourir, qui ne sont seulement les approches que les autres ont utilisées, mais il faut tenir compte des données de la station où on veut procéder, par exemple, à une création ou à une régénération de la forêt.
Merci. Merci John Lupika pour ces explications et ces témoignages. Félicien Wondo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
Bonjour. On vous écoute.
Je voulais intervenir justement pour ce problème-là. Je suis environnementaliste moi-même.
Oui.
Effectivement, le problème de déboisement, c'est vraiment un fléau. Parce que, comme l'invité a dit, si vous allez sur la route de Kikwit, vers Kenge ici, ben, je vous dis sincèrement, tous les arbres sont abattus pour la braise.
Oui.
Or, ces arbres-là produisent des chenilles que les gens consomment.
Oui.
Alors, à l'allure où vont les choses, les années à venir, il n'y aura plus de chenilles, il n'y aura plus d'arbres. Donc, c'est un problème très sérieux. Il faudra sincèrement, comme il le dit, trouver des essences qu'il faut utiliser pour la production du bois pour les gens qui utilisent la braise. Parce que sinon, ce sera une catastrophe les années qui viennent. Donc, je considère qu'il faut une sensibilisation, comme on vient de le dire.
Oui.
Que les gens comprennent qu'en coupant les arbres et s'il n'y a pas reboisement, nous sommes en train d'aller vers la catastrophe.
Bien, merci. Merci Félicien Wondo, Jean de Dieu.
Oui, merci. Félicien a abordé, quand même, il a bien abordé le problème tel que nous sommes en train de le dire, c'est-à-dire il faut aller vers la sensibilisation des communautés locales. Il faut que l'État réfléchisse sur ce qui doit être fait en termes de création de forêts. Il ne faut pas laisser les champs libres. Vous savez, je dis, dans une société où il n'y a pas de règles, dans une société où les règles ne sont pas respectées, il n'y a rien. C'est le désordre, c'est l'anarchie qui s'installe. Il faut mettre des règles. Il ne faut pas que les gens, les ONG, ou les gens qui veulent créer des forêts, fassent des choses qui ne sont pas importantes. Finalement, c'est une perte de temps. Donc, il faudrait cadrer le secteur et montrer une directive.
Et John nous a dit qu'il faut, il faut adapter. Il faut avoir des approches selon les milieux, selon les besoins du milieu.
C'est ça que nous sommes en train de dire. Quand nous parlons de forêt distille, c'est-à-dire, pour nous, il n'y a pas des essences à citer par rapport à ça. Dire, voilà, c'est telle essence qui doit être là. Bien sûr, il y a beaucoup d'essences qui doivent être dans ce qu'on a fait. Mais pour nous, lorsqu'on est en train de créer une forêt utile, vous devez faire en sorte qu'au moins 3-4 fonctions soient remplies par cette forêt. Pas seulement pour l'aspect énergétique, pas seulement pour l'aspect alimentaire, mais voir que les gens, tous ces aspects peuvent être remplis. Donc, l'approche, il dit qu'il faut des approches différentes, mais tout à fait, c'est ça la vision, parce que il y a, par exemple, lui, il était, je crois que John, c'était à Maniema, mais il y a des essences tout à fait adaptées dans les conditions de Maniema qui ne peuvent pas peut-être s'adapter ici.
Oui.
Donc, on ne peut pas dire, bon, prenez telle essence, allez, mais nous devons créer, par rapport à une forêt au niveau de Maniema, une forêt qui doit remplir ses fonctions, bien sûr, avec des essences qui peuvent être là, ou soit on peut introduire d'autres essences qui peuvent présenter un intérêt pour la communauté
locale.
Il
nous a révélé qu'ils ont même des caféiers qui ont atteint la taille des manguiers.
Exactement. Donc, c'est tout à fait normal ce qu'on est en train de vivre. Donc, par rapport à la vision des Féliciens, nous allons lentement vers une catastrophe. Parce qu'il y a des projets, par exemple, où le programme RED est en train de réaliser ou à travers le ministère de l'Environnement au niveau du district du Congo. Mais il faut faire très attention d'aller encore avec des forêts qui ne vont pas représenter un intérêt pour la communauté. Donc, il est temps de réqualifier des choses pour qu'on n'arrive pas à des choses finalement qui ne sont pas très très intéressantes pour les populations.
Mmh.
Donc, c'est ça le moment d'y réfléchir et pour apporter des solutions à tous ces problèmes-là.
Voilà, on retient une forêt utile doit répondre à ces fonctions-là. La fonction alimentaire, énergétique, médicinale, et il faut que les gens y trouvent les plantes médicinales.
Bien sûr.
Et aussi la séquestration.
La fonction environnementale.
Oui, voilà. Ça Salomou, vous êtes à Baraka, bonjour.
Bonjour la radio.
On vous écoute.
Oui. De ma part, je voulais demander à l'invité, je pense qu'il y a plusieurs forêts. Alors, je voulais demander quels sont les critères d'une forêt.
Quels sont les critères d'une forêt?
Ah, c'est ma question, oui.
Je n'ai pas bien compris. Je dis
Il dit quels sont les critères d'une forêt. Peut-être les critères pour qualifier que c'est une forêt. Je pense une forêt utile.
Ah oui. Bon, en fait, s'il veut demander la définition d'une forêt simple, alors là, il faut se référer au code forestier de notre pays qui définit une forêt comme étant un espace qui est occupé par les arbres. Donc, au moins, la formation végétale ou les espèces qui se trouvent doit avoir une hauteur au moins de 5 mètres. Et l'espace doit être au moins des nectars. C'est ça la forêt dans la législation congolaise par rapport au code forestier. Mais je ne sais pas si c'est ça la question qu'il devait poser, mais sinon s'il veut une définition beaucoup plus claire de la forêt, c'est ça en termes du code forestier. Donc voilà.
Voilà, c'est cela la définition. Est-ce que cette définition est la même partout ou bien c'est... RDC, elle est particulière.
Oui, donc c'est ça qu'on est en train de dire. Et par rapport à la République démocratique, cette définition, en fait, quand on a élaboré le code forestier, c'est pour répondre aux exigences du protocole de Kyoto. Mais je crois qu'avec l'évolution des choses, avec le programme de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts, je crois qu'il connaît dans l'obligation morale de pouvoir revoir cette définition. Parce que les forêts... où les formations végétales qui ne répondent pas à ces critères ne peuvent pas bénéficier de l'appui financier à partir du mécanisme REIT. Donc là, c'est seulement des formations végétales dont les arbres atteignent 5 mètres et l'espace 1 mètre. Mais dans d'autres pays, on dit que les formations in forêt, c'est un espace où la superficie peut être de 0,25 hectare et les arbres, c'est 2 mètres. Et là, pour eux, c'est une forêt et ils peuvent bénéficier des compensations financières par rapport à ça. Mais il appartient, et je crois, il y a un travail qui s'est fait, à mon avis, au niveau de RED pour essayer un peu de réadapter cette définition pour que nous puissions avoir des appuis financiers par rapport au mécanisme RED. Sinon, toutes les formations ne seront pas éligibles.
Voilà. Alors, on retient pour créer... Alors, quels sont les préalables pour créer les forêts utiles? Vous avez dit d'abord, la forêt utile doit répondre à ces fonctions-là, alimentaires, énergétiques, médicinales et autres. Alors, quels sont les préalables aujourd'hui pour arriver à créer ce genre de forêts à travers la RDC?
Oui, je dis, les préalables pour arriver à créer ce qu'on appelle le forêt utile, c'est qu'il faut qu'il ait un cadre pour réglementer tout cela. Donc, sinon... on va arriver à des choses où chacun se réveille le matin et il commence à faire des choses de sa manière et finalement le lendemain on revient à la case de départ. Il faut un cadre pour réglementer tout cela. Deuxièmement, il faut une grande sensibilisation comme on disait les gens. Ça ne sert à rien d'élaborer les choses tant qu'il n'y a pas un consensus autour de ça, tant que beaucoup de gens ne sont pas informés de ça. Vous êtes en train de perdre votre temps dans votre bureau climatisé parce que rien ne sera respecté et rien ne se fera. La sensibilisation, c'est un élément important des réussites d'un programme ou soit des réussites d'une loi. Tant que les gens ne sont pas sensibilisés, vous perdez du temps inutilement. Rien ne se fera sur le terrain. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, je crois qu'il faut un cadre, il faut la sensibilisation et il faut des directives scientifiques sur ce qui doit être fait en termes de création de forêts utiles en République démocratique du Congo, en termes de ce qu'on peut dire reboisement ou boisement. Sinon, on fait des trucs et le lendemain, les gens vont les détruire parce que ces choses ne représentent pas d'intérêt pour les communautés. Voilà ce que je pouvais dire en rapport à votre question aujourd'hui.
Merci Jean-Dédieu Minengou. Nous rappelons que vous êtes expert en environnement et développement. À la prochaine.
Merci Jody.